Mardi, Donald Trump a annoncé suspendre la contribution financière des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé. Le président américain accuse l'agence d'avoir commis des erreurs dans la gestion de la pandémie et d'être aligné avec la politique de Pékin. Bonjour Anne Sénéquier.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre, chercheuse associée et co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale à l'IRIS. L'OMS a été créée en 1948. Elle a été sous le feu de nombreuses critiques. Alors, qu'est-ce qui lui est reproché précisément dans la gestion de la pandémie du Covid-19?
Alors, je pense que c'est peut-être intéressant de faire une petite analyse rétrospective. Les États-Unis reprochent à l'OMS leur mauvaise gestion de l'épidémie, la dissimulation de la propagation du virus. L'OMS n'aurait pas envoyé d'experts médicaux. L'épidémie aurait pu être contenue à sa source. Je pense qu'il faut voir plusieurs choses. Attaquer une instance internationale de l'ONU, ce n'est pas une première pour les États-Unis. Ils avaient déjà quitté l'UNESCO en 1984 parce qu'elle était jugée trop proche de l'Union soviétique, trop critique avec Israël. Ça a été de nouveau le cas en 2017. Aujourd'hui, c'est l'OMS qui est ciblée en dénonçant cette mauvaise gestion et un rapprochement à la Chine, alors que les États-Unis, justement, financent le plus l'OMS. Donc je pense qu'il est intéressant de remettre un peu de contexte dans tout cela. D'un côté, on a un gouvernement qui a minimisé le risque sanitaire du Covid-19 pendant très longtemps, alors que le premier cas est arrivé aux États-Unis le 21 janvier, directement depuis Wuhan. Alors que la stratégie énoncée par l'OMS à ce moment-là, confortée par le règlement sanitaire international qui est signé par tous les pays, dont les États-Unis, était de tester pour garder la chaîne de transmission visible entre les cas et éviter justement la propagation du virus. Les États-Unis ont refusé les kits de tests proposés par l'OMS, préférant élaborer leurs propres tests, qui n'ont pas marché avant des semaines. Sur une centaine de laboratoires qui devaient être équipés de ces tests, 3 seulement ont marché sur l'ensemble du territoire américain. Et d'autre part, on a un système sanitaire et social particulier qui n'a pas permis non plus un confinement efficace parce qu'il y a peu d'arrêt de travail, parce que si on ne va pas travailler, on peut être mis au chômage de suite. Et du coup, on avait des cas suspects qui étaient peu enclins à aller dans les hôpitaux du fait de l'absence de couverture et sociale et médicale, puisqu'on a demandé dans un premier temps aux patients de régler leur note de soins.
Ensuite, donc ça, c'est le premier volet des critiques qui sont adressées à l'OMS et que vous jugez, semble-t-il, injustifiées, Anne Sénéquier. L'autre aspect, c'est le reproche qui est fait à l'OMS de s'être aligné sur les positions de Pékin et d'avoir, en quelque sorte, aidé les thèses chinoises à se diffuser.
J'y viens. Effectivement, je ne dis pas que les critiques sont injustifiées, puisqu'il y a des torts des deux côtés. Mais je pense que c'est important justement de comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Et effectivement, de l'autre côté, on a une OMS qui réalise des rapports de situation quotidien depuis le 21 janvier, donc le premier date du premier cas aux États-Unis, et qui permettait de suivre l'évolution au jour le jour des experts de l'OMS envoyés en Chine depuis janvier. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette visite du DG de l'OMS en Chine fin janvier qui félicite la Chine pour sa transparence et sa gestion de la crise. On est à un moment où les chiffres en Chine commencent à arrêter de monter. Alors aujourd'hui, vu d'aujourd'hui, sachant que le premier cas n'est probablement pas celui du 31 décembre, comme la Chine a pu le dire, mais plutôt mi-novembre, voire avant, que le nombre de morts en Chine est très probablement sous-estimé par les chiffres officiels, il est légitime de demander des comptes à la Chine et à l'OMS. Après, la question c'est, est-ce que c'est le moment? Probablement pas. Certains parlent même de crimes contre l'humanité, justement dans ce...
Le crime contre l'humanité?
Oui, de couper les fonds à l'OMS, sachant que les États-Unis financent quasi à 20% le budget de l'OMS. C'est le Lancet qui est la bible médicale qui évoque cette notion. Ensuite, je pense qu'il est nécessaire de prendre un peu de recul sur la situation et d'avoir une vue globale de la situation. On a l'OMS qui félicite la Chine pour sa coopération et sa transparence. Elle a identifié et partagé la séquence génétique du virus une semaine après avoir informé l'OMS de cette nouvelle pneumonie et communique chaque jour sur ces chiffres. Cependant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas la première épidémie qui part de Chine et la Chine a dû gérer l'émergence du SARS en 2002. à l'époque, justement, la Chine a été très critiquée pour son manque de réactivité et de communication et qui a du coup ralenti la prise en charge au niveau international de mesures qui auraient pu réduire l'épidémie à ce moment-là. Alors oui, aujourd'hui encore, rien n'est parfait, mais la progression est notable. Et c'est ce qu'a voulu notifier l'OMS à la Chine lorsqu'il y a eu justement ces félicitations.
Mais est-ce que l'OMS n'a pas tardé à alerter le monde? On se souvient que l'OMS expliquait qu'il s'agissait d'une épidémie, pas encore d'une pandémie, que celle-ci était jugulable. Bref, y a-t-il eu le devoir de conseil de cette organisation internationale par rapport au Concert des Nations, précisément?
Non, l'OMS a été avertie par la Chine le 31 décembre. Elle a participé de suite justement à la notification des autres pays, les pays régionaux, dans un premier temps l'Asie du Sud-Est. Lorsque la séquence génétique du virus a été identifiée le 7, elle a été partagée le 12 par les autorités chinoises. De suite, l'OMS a dispatché, ce qui a permis dès le 13, le lendemain, d'identifier des cas en Thaïlande, ensuite au Japon, dans toute la région. Donc l'OMS a joué son rôle de dispatch. Alors c'est vrai que l'OMS a aussi revu sa copie par rapport aux dernières épidémies. Elle a été très critiquée, c'est vrai, par son manque de réactivité face à Ebola en 2014. Mais cette fois-ci, justement, il y a eu entre-temps une réforme du fonctionnement. On a aussi changé de DG entre-temps. La mise en place d'un comité d'experts a été bien plus rapide avec une déclaration d'urgence sanitaire de portée internationale, ce que vous évoquiez tout à l'heure, le 30 janvier. Alors, on va pouvoir se dire, entre le 31 décembre et le 30 janvier, on est un peu long. Sauf qu'à ce moment-là, le nombre de cas hors de Chine était limité à 82 personnes, majoritairement dans la région de l'Asie du Sud-Est, avec un cas, quelques cas sporadiques en Europe, mais qui étaient très identifiés, et un cas en Amérique. À ce moment-là, les chaînes de transmission hors de Chine étaient encore toutes visibles à ce moment-là.
Et en même Donc temps, il n'était pas justifié de déclarer qu'il s'agissait déjà d'une pandémie, Anne Sénéquier?
Non, absolument pas. Non. Pandémie, c'est une définition très sémantique. Pandémie veut dire présence de la pathologie sur tous les continents et dans la majorité des pays.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant pour l'OMS? Vous l'avez dit, Anne Sénéquier, celle-ci serait amputée donc de 20% de son budget. Si les États-Unis persistent à ne pas vouloir abonder ce budget, quel avenir du coup pour cette organisation internationale?
Alors, Monsieur Trump n'a pas dit qu'il cessait de financer l'OMS à tout jamais. Il a dit qu'il suspendait la contribution américaine pendant le temps d'une enquête qui pourrait durer 60 à 90 jours. Ce qui s'est passé avec cette réforme de l'OMS dont je vous parlais tout à l'heure, c'est aussi chercher des financements innovants. Donc on parle de la contribution volontaire des États, celle des États-Unis, de la Chine, de la France et ainsi de suite. Mais il y a aussi justement des nouveaux financements par des financements privés. C'est le cas par exemple de la fondation Bill et Melinda Gates Foundation. Et aujourd'hui, l'OMS a aussi fait un appel de fonds exceptionnel justement suite à l'épidémie. L'objectif de tout ça, c'est d'être dans la coordination. Et le but, encore une fois, et c'est quelque chose qui est déjà en train de se passer, ils n'attendent pas de toute façon les financements, c'est déjà quelque chose qui est lancé, c'est coordonner la réponse entre les régions, c'est dispatcher du matériel sur les lunettes, les gants, les masques. En Afrique, il y a un avion qui est parti hier d'Addis Abeba à destination de la majorité des pays d'Afrique pour justement dispatcher du matériel pour être dans la prévention. L'OMS génère des informations au public, il améliore les capacités de laboratoire sur certains pays et continents, il doit aussi améliorer la capacité des gens. Donc aujourd'hui, on a effectivement une faiblesse en termes de puissance, de capacité, malgré justement ce RSI que j'évoquais tout à l'heure, ce règlement sanitaire.
Mais il faudrait effectivement, on l'a entendu selon vous, Anne Sénéquier, soutenir l'OMS, en tout cas pendant cette période. Merci, je rappelle que vous êtes co-directrice de l'Observatoire de la Santé Mondiale à l'IRIS, 7h25 sur France Culture.